Bonjour à tous, bienvenue dans ce culte, vous qui êtes venus physiquement, en personne, aussi bienvenue pour tous ceux qui nous suivent à distance par l'écran, par la vidéo. Nous sommes venus ensemble pour ce culte, pour notre Seigneur, et notre secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Et je vous invite de vous lever pour ensemble chanter le psaume 92. Oh, que cette chose est belle de te louer, cher Seigneur. Dieu Tout-Puissant, riche en grâce et en miséricorde, tu viens au secours de tous ceux qui placent leur confiance en toi. Dispose-nous de t'adorer en esprit et en vérité, de te rendre honneur dans un saint respect. Encourage ton Église par la lumière de ta parole. Aide-nous à la recevoir dans l'humilité et le dévouement. Souviens-toi de ton Église, ici à Uccle et partout dans le monde, et console nos frères et sœurs dans leurs souffrances et détresses. Que ton saint nom soit loué. Amen. Asseyez-vous, prenez place. Et nous allons louer le Seigneur par la lecture du psaume 8.
Bonjour à tous. Psaume 8. Du chef de chœur sur la guittite, psaume de David. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui te tends plus éclatant que le ciel, par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour immobiliser, silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait un peu inférieur à un dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen.
Merci, c'est un psaume qui nous parle de la richesse de la création, des œuvres de Dieu. Et nous voulons en chanter aussi par le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons ». Donc c'est le 243 en arc-en-ciel. Grand Dieu, nous te bénissons et nous nous levons pour cela.
Grand Dieu, nous te bénissons. Nous
prenez place. Nous prenons du temps pour la confession. Et je vous lis un extrait du premier épître de Jean. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui, car il agit de façon juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ce sont des paroles de gens qui sont bien réelles et nous nous rendons compte de la réalité du péché en nos vies, même si en Christ il y a une solution, il y a le moyen de pardon. Et nous voulons exprimer cela en prière. Seigneur, Père céleste, tu es juste. En toi, il n'y a pas d'obscurité. Mais nous avons péché en pensée, en parole, en acte. Nous les confessons devant toi et nous nous humilions. Nous plaçons notre confiance en toi pour recevoir le pardon et la justice que tu as promis en Jésus-Christ. Fais resplendir ta face sur nous et pardonne-nous. Notre espérance est en toi, Seigneur. Nous te prions de nous renouveler de jour en jour. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, nous devons improviser un tout petit peu, parce que le prochain chant, Pour quel péché, c'est pas très connu et moi je dois le jouer à l'orgue, donc je m'excuse pour cela, mais il n'y a pas d'autre solution. Voilà, c'était bien la preuve que le cantique n'est pas connu, et c'est peut-être une occasion pour le chanter encore une fois, parce que la mélodie est très belle. Nous lisons des paroles de grâce. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, par Christ. Ce sont des paroles qui nous interpellent parce que l'apôtre dit, vous êtes une nouvelle créature. Il ne dit pas « vous serez un jour une nouvelle créature ». Et dans la réalité de tous les jours, nous n'avons pas toujours, ou même pas souvent, le sentiment que nous sommes des nouvelles créatures, parce que les circonstances de la vie et l'influence du péché nous suppriment, nous dépriment. Mais l'apôtre a bien dit cela, vous êtes des nouvelles créatures. Comment pouvait-il dire cela? C'est parce qu'il parle de l'œuvre de Jésus-Christ, avec l'œuvre de Jésus-Christ, avec sa résurrection, il a vaincu la mort et la nouvelle création a commencé à ce moment-là. Et quand nous acceptons le Seigneur Christ comme notre Sauveur, nous sommes en lui. Donc en lui, nous sommes devenus des nouvelles créatures. C'est un message que nous devons tenir à cœur, parce que c'est très, très important de nous rendre compte que le salut ne dépend pas de nous, mais de notre Seigneur. Et maintenant, nous allons avancer avec les lectures bibliques pour ce jour.
Comme c'est indiqué à l'écran, il y a deux lectures. Une première lecture dans le livre de Proverbes, au chapitre 8, les versets 22 à 31. Proverbes 8, 22 à 31. Le Seigneur m'a produite comme le commencement de sa voie, avant ses œuvres du temps jadis. Je suis investi depuis toujours, depuis le commencement, depuis l'origine de la terre. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas d'abîme, pas de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient en place, avant les collines, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il installa le ciel, j'étais là. Lorsqu'il traça son horizon sur l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il assigna à la mer ses limites pour que les eaux n'en passent pas les bords. Lorsqu'il traça les fondations de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. Je faisais jour après jour ses délices, jouant avec lui en tout temps, jouant avec le monde, avec sa terre, et trouvant mes délices parmi les humains. Nous aurons une deuxième lecture dans Éphésiens, au chapitre 3, les versets 8 à 13. Éphésiens 8, 3, 8 à 13. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière pour tous, la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu, le Créateur de tout, afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats, des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en lui, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause des détresses que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire.
Oui, le titre pour le message, c'est le plan de sauvetage. En ces temps particuliers où le virus nous force de nous rencontrer à distance, nous nous posons la question, est-ce que la vie rentrera un jour dans la normalité? Comment la vie communautaire peut-elle fonctionner dans ces circonstances? Certains pensent même que l'Église doit trouver d'autres formes d'expression face à cette pandémie. Est-ce que l'Église deviendra une communauté virtuelle qui communique à distance par l'Internet? Face à sa question, le pasteur Thomas, la semaine passée, nous a rappelé que la perspective ultime du chrétien est ailleurs. Vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage, dit l'apôtre Pierre. Les chrétiens sont conscients de réalités qui dépassent largement la réalité d'une pandémie. Ils ont une espérance ailleurs. Cette idée devrait nous donner la confiance que l'Église, le peuple de Dieu, a un avenir certain. Aujourd'hui, nous en parlons plus en détail. Dieu a un plan pour son Église et c'est Dieu qui nous donne une perspective, la perspective. L'épître de Paul aux Éphésiens a comme thème l'Église, sa vocation, sa communauté, sa diversité, son unité. Et comme dans toutes les lettres de Paul, le langage est très compact et nous devons parfois disséquer le texte de tout près. C'est certainement le cas dans le texte d'aujourd'hui et on verra cela. Dieu a un projet pour la création et pour l'Église. Dans le chapitre 1 de cet épître, nous lisons ce plan, le plan de Dieu. Dieu l'a fixé d'avance pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et un des grands thèmes du plan, c'est le secret ou le mystère. Et le mystère, c'est quoi? Que les non-juifs reçoivent le même héritage, les mêmes promesses que les juifs. La réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Et Paul en parle dans le début du chapitre 3. Ce mystère fait partie du grand projet de Dieu. Mais Paul parle encore d'autres dimensions de ce plan. Dieu veut créer un seul peuple composé de juifs et de non-juifs. Il veut la réconciliation entre hommes, mais aussi et avant tout la réconciliation de l'homme avec Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est le thème du chapitre 2 de l'Épître. Et maintenant, nous prenons le chapitre 3, le texte que nous avons lu. Et nous lisons que Paul a été choisi pour annoncer les secrets de ce plan de Dieu. Paul a reçu une révélation spécifique pour ce plan. Et le verset 9, qui est au cœur de ce texte, ça pose pas mal de problèmes de traduction, mais c'est le verset clé pour comprendre ce passage. C'est donc important de bien saisir sa portée. Plusieurs traductions nous font croire que là, quand le texte, ce verset parle de secret ou mystère, il s'agit toujours du mystère que les juifs ou les non-juifs et les non-juifs font partie d'un même héritage. Mais ça, Paul l'a déjà dit. Ici, il continue sa pensée en parlant de la réalisation du plan de Dieu pour l'avenir. Comment Dieu va-t-il réaliser ses projets pour l'humanité ? Comment une nouvelle création prendra forme? On pourrait peut-être approcher la signification de ce verset 9 avec cette paraphrase. Moi, Paul, j'ai reçu la grâce d'annoncer, de mettre en évidence le gouvernement, la dimension cachée du plan que Dieu, le Créateur de toutes choses, a conçu depuis des temps immémoriaux. Et Paul donc résume ce plan de Dieu dans le texte, et je suis la logique. Le Christ est au centre du plan, ses richesses sont insondables, il dépasse tout ce que l'homme pouvait concevoir, dans le verset 8. Le plan de Dieu pour sa création a été conçu il y a très longtemps, Dieu l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité, c'est le texte qui le dit. Dieu avait un plan d'avant la création. Dieu est le créateur de toutes choses et ce plan de sauvetage faisait partie de ses projets. Et maintenant, ce plan est en cours de se développer, de se réaliser, de devenir concret et visible. Et l'Église, la communauté des croyants, joue un rôle essentiel dans la révélation du plan. Mais les autorités et les puissances vont apprendre la réalisation du plan de Dieu par l'intermédiaire de l'Église. Et au centre de ce plan est l'œuvre de réconciliation, le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a rendu. Voilà, ça c'est la logique de ce que Paul dit, le résumé du texte, mais tout n'est pas clair. Il est nécessaire de fouiller un peu plus pour comprendre la portée de cette révélation que Paul a reçue. Et nous parlons de trois aspects. D'abord, les autorités et les puissances. Quand l'apôtre parle des autorités et des puissances, il parle du monde spirituel. La Bible ne donne pas beaucoup de détails, mais nous savons que Dieu a aussi créé des anges qui sont les serviteurs du Seigneur et qui effectuent ses instructions. Nous connaissons même les noms de deux anges en particulier. Michaël, l'archange, c'est un guerrier qui intervient au moment stratégique pour défendre la cause du peuple de Dieu. Il donne au prophète Daniel quelques détails de son combat contre les forces du mal. Et Gabriel, c'est un autre ange, c'est le messager de Dieu qui vient aussi chez Daniel pour annoncer des événements qui auront lieu à ce moment-là. Mais Gabriel est surtout connu comme l'ange qui annonce à Marie la venue de son fils, le Messie. Nous savons aussi que Satan, c'était un ange qui s'est opposé à Dieu, même avant la création, et qu'un nombre d'anges lui ont suivi. Depuis ces événements, un combat fait rage dans les cieux célestes. Les forces du mal s'oppose au projet de Dieu. Donc, peu de détails, mais la réalité est bien présente dans le Nouveau Testament. Jésus confronte sans cesse Satan et les mauvais esprits. Ils ont comme but de détruire et de résister au projet de Dieu. Mais sans aller plus loin, je cite Paul, qui en parle encore dans le chapitre 6 de cette épître à l'Éphèse, les armes du chrétien, et il dit « Les chrétiens sont appelés à se battre, à lutter contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans ce monde céleste. » Donc là, Paul donne un inventaire des forces du mal. Ici, il parle aussi des anges qui servent le Seigneur. Les commentateurs de la Bible ont eu des idées assez diverses concernant l'identité de ces autorités et puissances. Certains pensent qu'il s'agit surtout des structures injustes dans la société, comme l'esclavage, la pauvreté structurelle, la dominance d'idéologies, la colonisation malsaine, les camps de concentration, le Shoah. Et bien que cette idée puisse rencontrer notre sympathie, d'autres commentateurs soulignent que Paul parle ici vraiment des forces spirituelles. Le monde spirituel n'est pas visible. Il s'agit du monde des anges et des esprits du mal. Et la façon dont Paul parle de la réalité de ce monde des ténèbres ne laisse aucun doute. Il s'agit de puissances autres que des structures politiques de nos sociétés. Le monde spirituel est bien réel. Et pour bien saisir ce dont Paul parle, nous devons nous rendre compte qu'il s'agit donc tout d'abord du monde des anges, des serviteurs de Dieu, mais il s'agit aussi du monde des mauvais esprits qui s'opposent à Dieu. Et toutes les deux catégories voudraient bien comprendre le projet de Dieu pour l'avenir, les anges pour leur bien. Ils désirent découvrir le plan de Dieu, dit l'apôtre Pierre quelque part. Et les mauvais esprits pour connaître leur sort ultime, leur condamnation. Tout cela, Paul décrit en une seule phrase. Oui, le monde spirituel connaîtra le plan de Dieu, et ceci par l'intermédiaire de l'Église. Les anges n'ont pas droit à une révélation spécifique à eux concernant les choses à venir. C'est au peuple de Dieu, l'Église universelle, que Dieu est en train de révéler son plan de sauvetage. C'est étonnant. C'est par l'Église que Dieu révèle ses projets. Donc nous devons parler un peu de la création et la nouvelle création. Dieu, dans sa sagesse, a créé le monde et l'univers. Quand Dieu créa, il le faisait par sa sagesse, une sagesse qu'il avait enfantée dès les temps éternels, dit le chapitre des Proverbes. Dans le poème, c'est un poème dans le chapitre 8 du Proverbe, cette sagesse divine nous est présentée comme le maître d'œuvre, le chef du projet de la création. Et le texte implique que cette sagesse, c'est vraiment la sagesse de Dieu lui-même. Dieu, sagesse, a pris plaisir dans cette activité de créer. Quand nous lisons le chapitre 8 de Proverbe, il est question que la sagesse joue. Et c'est un plaisir pour Dieu pour créer quelque chose qui n'existait pas du tout. Et Dieu a tout préparé avec considération. En dernier lieu, il a créé l'homme comme son fils, quoi, celui qui devait régner sur les œuvres de sa main. La sagesse trouvait ses délices dans les êtres humains, dit le texte. Quand Dieu avait accompli son œuvre, il a déclaré que tout était très bon. Et ça, c'est le psaume 8 que Yves a lu tout à l'heure aussi. Donc, quelle déception quand l'homme a désobéi aux instructions de son Créateur. Par la chute, le mal a gagné sa place dans notre monde et est devenu la racine de destruction, la source du mal, du malheur et de la haine. Mais l'Éternel avait déjà un plan pour le monde, le plan de sauvetage. Jésus-Christ deviendrait la pierre angulaire, la fondation de ce plan. Et l'Éternel a prévu une nouvelle œuvre de création, une création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Le mal est vaincu et la paix et la justice régneront pour toujours. Donc, parlons un peu de l'Église quand même, parce que l'Église a reçu un rôle essentiel, critique, dans ce plan de sauvetage. Sous l'ancienne alliance, Dieu avait choisi un seul peuple, Israël, pour être son peuple. Il avait déjà commencé ce projet avec des promesses données à Abraham, et dans ces promesses, il est question qu'en Abraham, tous les peuples de la terre seraient bénis. Mais depuis, Dieu avait choisi un seul peuple qu'il aimait, Israël. Les autres peuples aux alentours pouvaient parfois profiter de la grâce montrée à Israël, mais c'était comme des miettes qui tombent de la table. Il y a une histoire très touchante dans l'évangile de Marc qui parle de la veuve syrienne et qui demande à Jésus de guérir sa fille. Et elle parle de cela, les miettes qui tombent de la table. Il fallait attendre la venue de Messie pour que les promesses faites à Abraham prennent forme. Et avec la venue du Messie, la perspective change complètement. Dorénavant, Dieu rassemble un peuple, mais ce n'est plus le peuple avec une identité nationale et qui habite dans un pays spécifique. Tout ceci, c'est du passé. Non, maintenant, c'est un peuple formé de juifs et de non-juifs, un peuple appelé de toutes les nations, de toutes langues, de toutes races. Et ce peuple est uni en Jésus-Christ comme son sauveur, son maître, son roi. C'est le peuple de l'Église universelle, rassemblé de tous les temps et de tous les coins du monde. Dans l'Église du Seigneur, il y a de la place pour les pauvres et des riches, pour des serviteurs et pour des maîtres, pour des femmes et pour des hommes, pour des gens de tout horizon. Et ensemble, ils louent Dieu, ils chantent sa gloire, sa sagesse. Ensemble, en communauté, ils cherchent la volonté de Dieu. Ensemble, ils sont en train de révéler le projet de Dieu. Et Paul en tire cette conclusion étonnante. C'est par ce moyen, par l'existence de cette communauté universelle de l'Église, que Dieu veut révéler les détails de son plan. C'est en et par l'Église qu'il veut instruire les puissances et les autorités dans le monde céleste. Donc l'Église a reçu un rôle essentiel pour être enseignant, instructeur. Par son Église, le Seigneur veut démontrer que sa sagesse divine est infiniment variée. Et c'est une chose étonnante. L'Église universelle, composée de beaucoup de communautés, chacune avec sa spécificité, sa couleur locale, devient l'instrument de Dieu pour révéler ses projets de l'avenir au monde spirituel. L'œuvre de la nouvelle création a commencé, d'abord dans la résurrection du Christ, et puis dans la vie des croyants. Et en Christ, nous sommes déjà une nouvelle création, comme Paul l'indique et que nous avons cité tout à l'heure. Et Paul lui-même, devant une telle révélation, dit, il écrit aux Éphésiens, « Ne perdez pas le courage. » Paul devait subir des souffrances, mais c'était pour une bonne cause. Jésus-Christ, le chef de l'Église, conduit la communauté des croyants. Il est plus puissant que n'importe quelle autre autorité ou puissance, et nous pouvons peut-être ajouter pandémie. Ce message implique que l'Église a une grande responsabilité. Les églises locales, y compris notre communauté à Uccle, sont appelées à vivre dans la paix et l'unité, dans le service mutuel, en tant que témoins fidèles. En montrant la profondeur de la sagesse de Dieu, ils deviennent les instructeurs, les enseignants du monde céleste. Est-ce que cela a des conséquences pour la vie de l'Église ? Aussi, pendant ces temps de pandémie, une communauté dont les membres se retrouvent à distance peut-elle former un seul corps? Comment pouvons-nous tisser des liens fraternels à distance, de telle façon que les anges comprennent le plan de sauvetage de Dieu? Voilà des questions que le Seigneur nous adresse aujourd'hui et pour les temps à venir. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais c'est clair qu'une église virtuelle qui communique à distance par l'Internet aura très difficile de vivre en communauté et d'ainsi exprimer la sagesse de Dieu. Mais nous pouvons avoir confiance que le Seigneur montrera le chemin. Il a un plan pour ce monde, il veille sur son Église, c'est ça la perspective qui nous encourage de tenir ferme. Que Dieu nous donne du discernement et de la sagesse pour le servir en toutes circonstances. Amen. Nous chantons d'abord le numéro 528 de Arc-en-ciel, « Ô Jésus, tu nous appelles ». Thank you. C'est le moment de la prière d'intercession et je demande à Yves de prier avec nous.
Prions. Oui, notre Père, à la fin de ce moment de culte, nous voulons te présenter notre monde, chamboulé par le Covid-19, mais aussi, comme nous l'avons entendu, malmené par l'ennemi. Seigneur, que tu puisses nous équiper, nous, ton Église, à intervenir et à faire connaître ton règne, ta puissance et ta gloire. Mais Seigneur, nous voulons te présenter aussi notre pays en particulier, la Belgique, afin que tu la bénisses et que tu donnes à ses dirigeants la sagesse nécessaire pour nous guider dans les décisions et les choix qu'il convient de prendre. Seigneur, nous voulons aussi nous tourner vers cette Église que nous fréquentons et te demandons de la bénir, de bénir ses membres. Je te présente les personnes âgées et les personnes peut-être malades. Seigneur, que tu fortifies et que tu restaures. Nous pensons aussi à ces membres qui sont partis en vacances ou qui vont prochainement partir en vacances. Seigneur, que tu les gardes et que tu leur permettes d'être restaurés dans leur être intérieur, renouvelés. Et Seigneur, que ton esprit puisse les équiper, les renouveler et les aider à affronter la nouvelle année scolaire qui va commencer après. Et Seigneur, comme Jésus nous l'a enseigné, nous voulons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous venons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Voilà pour les annonces. Il n'y a pas grand-chose à dire, je pense. C'est le moment de vacances. Le pasteur est en congé. Nous pouvons nous réunir à nouveau, heureusement, dans ce temple, par inscription. Pour l'offrande, c'est recommandé de faire un versement, si c'est possible, un virement bancaire, mais si vous voulez contribuer en espèces, il y a des petits paniers à la sortie. Je vous demande aussi de penser aux personnes qui n'ont pas une très bonne santé, comme Annie Delay, comme le pasteur David, et peut-être d'autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres nouvelles dans ce sens. Il y a la prière chaque semaine, le jeudi soir à 19h30, et ça continue. Je ne sais pas, moi, merci à Manu de jouer pour nous. Moi, je n'ai pas d'autres nouvelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai oublié? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Enfin, nous sommes très contents de revoir la famille qui est venue déjà la semaine passée et qui est très fidèle. Merci d'être venue. Marielle.
J'ai envie de prier pour toutes les personnes qui vivent une situation familiale difficile, qui sont près d'un divorce, pour que la famille reste en paix et que chaque personne puisse trouver le calme de son côté et la force nécessaire pour passer ce passage difficile. Amen.
Merci. Oui, ce sont des temps difficiles. L'Église a aussi la responsabilité de l'intercession et nous pouvons priez pour cela maintenant avec quelques paroles. Seigneur Dieu, notre Père, toi tu es fidèle et tu connais toutes choses. Tu connais la situation de confinement, d'isolation temporaire, d'isolation de personnes qui sont découragées parce qu'ils n'ont plus de contact, mais aussi les problèmes parfois dans les familles quand ils restent ensemble pendant longtemps et qu'il y ait des tensions qui sortent et qui font du mal. Et parfois qui causent parfois des conflits et des troubles. Et nous te prions que tu veuilles épargner la communauté de l'Église pour ce type de problème et que tu veuilles intervenir dans les couples qui ont besoin de toi tout particulièrement. Et nous prions pour le monde qui ne te connaît pas et qui a difficile de vivre en paix et en harmonie. Nous venons vers toi. Au nom de notre Seigneur béni, Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette... Oui, Raymond.
Peut-être bien d'insister sur le fait que jeudi, il y a Raymond hier.
Oui.
Pas seulement dimanche matin.
Oui. Oui.
C'est très important. Et si nous pouvions être une petite poignée déjà, chaque jeudi à 19h30, je lance cet appel. C'est l'occasion vraiment de prier les uns pour les autres et pour la vie de la communauté. Merci.
Merci. Voilà, nous concluons ce culte avec une exhortation qui est bien sûr prise du même chapitre d'Éphésiens 3, les versets 17 et 18, où Paul dit « Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour et que, avec tous les membres du peuple de Dieu, vous soyez capables de comprendre combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. » Et nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et nous allons chanter un cantique sur ton Église universelle, et c'est le même petit souci que je dois vous accompagner pour cela, mais vous pouvez rester debout.
pour la sortie, on va le faire par ordre, les rangées du fond d'abord, et quelqu'un va nous désigner le moment de partir. Merci.